Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà pour votre histoire, Alizé, tirée directement du livre que vous publiez chez Grasset avec Sophie Boutboul, « Silence, on cogne ». Alors vous écrivez dans le livre que vous ne comptez pas en rester là, qu'il manque 4 mois de coups que vous avez subis, qui n'ont pas fait l'objet de procès à ce jour, et notamment cette menace de vous tuer à coups de couteau. Menace d'ailleurs pour laquelle vous détenez un enregistrement. Est-ce que vous avez avancé là-dessus?
Alors en fait, je compte pas forcément lancer une démarche, enfin des poursuites juridiques à son encontre. C'est contre surtout les gendarmes qui ont été défaillants dans ma prise en charge, dans mes différentes prises en charge.
Vous vous êtes lancé dans du lourd, là?
Je me suis lancé dans du lourd.
Vous vous attaquez à l'institution?
Oui, j'ai déposé cette plainte l'année dernière, et donc devant le procureur de la République. Et cette année, au mois de septembre, il a classé sans suite cette plainte.
Mmh. Donc vous pouvez vous constituer partie civile?
Je me constitue partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
C'est risqué? Si vous n'y arrivez pas, vous devrez payer.
Oui.
Votre avocat vous l'a dit.
Oui.
Il y a notamment, par exemple, cette main courante qui a disparu de l'ordinateur de la gendarmerie. Une bonne expertise informatique faite par un bon labo devrait la retrouver.
Alors, en fait, elle était déguisée. C'est que moi, j'ai véritablement eu, sur le moment, la sensation de déposer plainte. Parce que c'est bien écrit noir sur blanc, je dépose plainte pour les faits mentionnés ci-dessous.
Oui.
Sauf que... En réalité, la façon dont le document est constitué, ce petit encadré qu'il y a en bas du document, montre que c'est un renseignement judiciaire.
Mais lui-même a disparu, ce renseignement judiciaire?
Ah oui, dans la base de données. Moi, j'ai une copie de ce document,
oui,
que j'ai fourni donc à l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
Oui.
Et en effet, l'enquête administrative prouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de traces de ce document.
Ça va être dur de faire condamner la gendarmerie pour la négligence. Vous faites la même démarche que ceux qui attaquent le cardinal Barbarin dans sa ville de Lyon parce qu'il a couvert un curé pédophile. C'est-à-dire, c'est très dur d'atteindre le haut,
oui,
de la pyramide.
Tout à fait.
Alors quand vous le rencontrez, au tout début, il est en instance de divorce. Est-ce que vous savez aujourd'hui s'il a déjà été violent avec sa compagne précédente qui était en l'occurrence sa femme?
Non, j'ai pas eu plus d'infos que ça et c'est pas des choses que sur lesquelles il se serait penché ou des confidences qu'il aurait pu me faire au début de notre rencontre.
Vous savez d'où lui vient cette violence qu'il ne semble pas contrôler puisqu'il la regrette juste après?
Je sais pas. C'est quelqu'un de sain en fait. À la base, c'est quelqu'un qui fait du sport, qui ne fume pas, qui ne boit pas. Donc il ne se drogue pas non plus. Donc il y a même pas de facteur extérieur qui pourrait finalement engendrer ce type de violence. Mais
il a été battu lui-même?
Non.
Il n'a pas cherché à raconter ça devant le tribunal en tout cas.
Non, du tout.
Alors le premier coup de poing, c'est là que se trouve au fond le nœud de votre histoire parce que il vous fracasse la mâchoire. Ce qui vous empêche d'obtenir votre BTS. C'est la première fois, dites-vous, qu'un homme vous frappe. Vous avez 18 ans en même temps, donc assez peu d'expérience des hommes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut partir.
Oui.
Qu'il aurait fallu partir. Et comme explication, vous dites « je l'aime ».
Oui.
Et ça doit bien vous travailler, ça.
Tout à fait.
D'aimer un homme qui vous frappe.
Bah sur le moment, j'y crois vraiment quand il me dit « je suis désolée », qu'il se met à pleurer, « je recommencerai plus »,« t'es la femme de ma vie », c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Au final, vous dites « bon, bah, il est conscient de ce qu'il a fait, il le regrette ».
Il le refera pas.
Il le refera pas.
Donc c'est la deuxième fois qu'il faut partir.
Oui, ça devrait être la deuxième fois, en effet.
Et la deuxième fois, vous dites « je me suis raccrochée au fait qu'il m'aimait ». Vous étiez en dépendance d'amour, en fait.
Possible.
C'est un truc où vous attendiez que quelqu'un vous aime totalement, entièrement, et c'est le piège qui s'est refermé sur vous, en fait, puisque c'était lui.
Je sais pas véritablement comment ça se met en place. C'est que on a traversé des choses ensemble, et pour moi, il évoque des faits, des choses qui se passent dans sa vie pour justifier ce qui se produit.
Le stress du boulot.
Le stress du boulot, le stress de ce qui peut se passer.
Le maintien de l'ordre, il est garde mobile, hein, donc c'est
gendarme mobile.
Gendarme mobile, donc c'est quelqu'un qui, par exemple, intervient sur des manifestations.
Oui.
Voilà. Et donc il évoque ça.
Pas que ça, aussi ce qui peut se passer au niveau familial, mais c'est une excuse, en fait. Il n'y a pas d'excuse au fait de frapper sa compagne. Mmh. Et sur le moment, je l'entends. Et comme ce n'est pas quelque chose de régulier, de coutumier, ce n'est pas tous les jours. C'est pareil, on parle des violences conjugales, mais on ne parle pas finalement du fait qu'à partir du moment où il n'y a même qu'un seul coup, mmh, on est victime de violences conjugales.
Mmh. Mais ce que les gens peineront toujours à comprendre, et je suis sûr que... typiquement, vos parents ont dû en parler des heures avec vous. C'est pourquoi t'es pas parti la première fois? Pourquoi tu nous en as pas parlé la première fois? Vous en parlez à une copine à un moment?
Oui.
Alexandra, dans mon souvenir.
Tout à fait.
Je l'ai pas évoqué dans le récit. Et vous lui dites pas tout, hein, d'ailleurs. Vous lui dites pas qu'il recommence.
Oui, enfin, elle est là le lendemain de la, du coup, au niveau de la mâchoire. Mmh. Et donc, je lui dis clairement que c'est un coup, c'est un fait de violence et que c'était pas du tout lié à la boxe ou quoi que ce soit. Enfin, ce qu'il avait pu lui exposer comme excuse. Et après, pour les autres faits de violence, non, je lui en parle pas.
Et à vos parents, jamais?
Mes parents, jamais.
Parce qu'au moment où il est question de porter plainte et où vous tergiversez, ce qui est une erreur, vous auriez dû évidemment porter plainte le jour même, parce que ce jour-là, il pouvait pas. Vous la refusez et le lendemain, il trouve un échappatoire. Vous dites, il faut que je m'assure que mes parents vont me soutenir. Je sais pas, je les connais pas, vos parents, mais j'ai une sorte d'intuition qu'ils vont vous soutenir, évidemment.
Alors, soutenir, oui, mais c'est surtout que j'étais dans une situation précaire, à ce moment-là également. Ouais. J'étais en licenciement économique, ouais, j'avais repris mes études, ouais, et se lancer dans des procédures, ça coûte extrêmement cher. Donc j'avais besoin de leur soutien et moral, physique et financier.
Ouais. Il faut qu'on en vienne donc au fait qu'il est gendarme et que, sans doute, ça change pas mal la donne. Je n'ai pas compris, écrivez-vous, la puissance d'un uniforme. C'est-à-dire que vous-même, au fond, le fait qu'il ait un uniforme vous impressionne.
Bah, c'est surtout les menaces qui sont associées aux violences qui m'impressionnent. Et sur le moment, je pensais pas qu'on pouvait finalement le laisser dans une impunité totale en étant auteur de violences conjugales. Mmh.
Alors, il y a un moment où il vous dit, et on se demande si les voisins ont entendu, hein, la fois où il vous balance contre la table basse, et il vous dit, à la caserne, il y a beaucoup de gendarmes qui frappent leurs femmes. Est-ce que c'est vrai?
Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Après, j'avais pas de contact avec les autres femmes à la caserne. Mmh. J'ai suivi les règles. Oui. Donc, je ne sais pas, au final, si véritablement il y en avait d'autres qui étaient victimes de violences conjugales. J'en ai pas entendu, mais je pense que ce soir-là, on m'a entendu, par contre. Oui.
Vous êtes sûr qu'on vous a entendu?
Ah, persuadé.
On entend tout.
On entend tout. Donc, forcément, le bruit et les claques et les cris ont fait que les voisins ont entendu.
Le fait que des gendarmes qui sont censés défendre donc le droit, la veuve et l'orphelin, dites-vous, battent leur femme. C'est lié à quoi, d'après vous? Est-ce que c'est lié à un sentiment d'impunité? C'est-à-dire, ils peuvent le faire, ils sont à peu près certains qu'il leur arrivera rien. Ou pas?
Non, je pense pas. Je pense que, véritablement, la difficulté dans le fait qu'ils soient gendarmes, c'est surtout quand on cherche à déposer plainte. Je pense, oui, pas que ce soit un acteur, un facteur, pour être violent avec sa compagne. Il y a des gendarmes et des policiers qui sont très bien. Ouais. Tous ne sont pas comme ça, quand,
ouais,
même.
Ouais. Ça n'est pas lié au fait qu'ils savent qu'il leur arrivera rien. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, face à la question des violences conjugales, un certain nombre de gens disent il faudrait durcir les sanctions et il faudrait les incarcérer tout de suite. C'est-à-dire les écarter de manière à ce qu'ils ne puissent pas revenir et frapper à nouveau. Et en fait, quand on regarde l'histoire du crime, on n'a jamais mis autant de gens en prison en France, et le crime ne baisse pas pour autant. C'est-à-dire, il n'est pas certain que la menace d'une sanction empêche les gens de frapper. Quand il frappe, il le dit, je suis en stress, et c'est physiquement que ça s'exprime. Et donc là, il n'y a pas la raison. Il réfléchit pas. Il dit pas, oulala, je risque de me faire avoir.
Non, du tout.
Vous décrivez très bien, évidemment, la relation de corps, de corporatisme qu'il y a dans la gendarmerie, qu'on peut sans doute d'ailleurs rapprocher, je sais pas, de la manière dont les évêques ont protégé les curés, dont les proviseurs de lycées ont protégé les profs, dont les hommes politiques ont protégé les hommes politiques pendant des années. C'est assez humain. Ce sont des corps très solidaires.
C'est assez humain, mais en même temps, c'est gravissime. Et voilà. Je pense notamment au cas qu'on évoque dans la partie enquête du livre de Karine, 24 ans, qui a été tuée par son ex-compagnon de 3 balles dans la tête devant son fils.
Et donc, il était, lui, policier.
Policier. et il l'a tué avec son arme de service. Elle avait déposé plainte, elle avait signalé les faits, elle avait appelé le 17, donc ils n'étaient plus ensemble, et pourtant, quand la gendarmerie à l'époque est intervenue, ils lui ont donné une tape sur l'épaule en lui disant qu'on ne te revoit plus ici. Enfin, là, c'est même l'esprit de corps, c'est même entre la police et la gendarmerie, simplement parce qu'ils sont représentants de la loi.
Parce qu'il y aurait une solution, c'est que quand on veut accuser un gendarme, on aille à la police, et quand on veut accuser un policier, on aille à la gendarmerie. Et parce qu'on sait qu'il y a la guerre des polices entre eux. Mais non.
Mais non, parce qu'en plus, l'enquête ne va pas forcément être au profit de l'autre corps de métier. Enfin, c'est pour la police quand c'est un gendarme ou la gendarmerie quand c'est un policier. Ça peut revenir aussi sur le secteur et traité par les gendarmes directement. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément, il y a pas de certitude dans le fait d'aller déposer plainte justement en commissariat ou en brigade à l'inverse, ni même devant le procureur de la République, puisque l'enquête après doit être menée et donc est redonnée aux enquêteurs.
Les gendarmes sont des militaires, alors ça change un peu la donne quand même, parce que il y a chez les militaires quelque chose qui relève de l'énorme solidarité, presque de la fraternité de principe quand même. Vous l'avez ressenti ça?
Ah oui, j'ai beaucoup entendu, on est des frères d'armes.
Oui.
Donc oui, je l'ai ressenti.
Et lui, il était très comme ça?
Ah oui, oui. Très, très engagé auprès de ses collègues. C'est une famille, au final. Ouais. C'est une grande famille.
Ils bossent beaucoup, tous?
Beaucoup, oui.
Ouais. Et ils sont tout le temps ensemble, entre mecs?
Tout à fait. Ils passent énormément d'heures ensemble.
Notamment les gendarmes mobiles?
Oui.
Quand ils partent en Martinique, ils partent tous ensemble.
Oui.
Ils se racontent toute leur vie.
Ah oui, c'est la famille.
Les maîtresses, ils sont tous au courant?
Ah oui.
Merci en tout cas, Alizée, d'avoir accepté de me confier votre histoire. Je renvoie donc à ce livre qui a la vertu de partir de cas précis et d'élargir et de rendre compte d'un vrai phénomène dont personne n'avait jamais parlé, qui sont donc les coups portés par des gendarmes et des policiers sur leurs femmes, sujet jamais évoqué. Ce livre s'appelle « Silence, on cogne ». Il paraît chez Grasset. Il est signé donc Alizée Bernard et Sophie Boutboul.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.